Restons courtois, Marc Hainaut.
De retour dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Vendry de Yerpel et Valentin Gore de Valeurs Actuelles, François Devoyer, éditorialiste bien connu de la radio, et nous accueillons Marie-Liesse Chevalier, journaliste pour VA Région. Bonsoir Marie-Liesse.
Bonsoir.
Vous allez nous parler d'Alsace, puisque l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à sortir l'Alsace de la région Grand Est. Les députés ont adopté mercredi un texte prévoyant de transformer la collectivité européenne d'Alsace en une région de plein exercice. Ça veut dire quoi?
Alors déjà, on va peut-être expliquer ce qu'est la collectivité
Absolument.
Européenne d'Alsace, parce qu'il y a beaucoup de mots, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ça a été créé en janvier 2021 et ça regroupe les anciens départements, donc le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Et c'est une collectivité spécifique qui a été trouvée après que l'Alsace ait rejoint le Grand Est en 2016, parce qu'en gros, les Alsaciens n'étaient pas du tout d'accord avec le Grand Est.
Bon, ils ne se sentaient pas spécialement
ouais, c'est ça, ils n'ont rien à voir avec, avec la Lorraine, par
avec
exemple. Avec
les pouilleux de Lorraine.
Tout doux sur la Lorraine.
Et Mosellan.
Donc concrètement, ces compétences, c'est les compétences classiques, donc route départementale, collège, action sociale, tout ça, mais ils ont quelques compétences spécifiques qui sont la coopération transfrontalière avec l'Allemagne et la Suisse, la promotion du bilinguisme et la gestion de certaines routes stratégiques. Et en fait, c'est surtout la coopération transfrontalière avec l'Allemagne et la Suisse qui intéresse le centre, donc le parti de Gabriel Attal, notamment, et c'est pour ça que Brigitte Klinkert, donc de députée Ensemble, a porté ce projet de loi qui est approuvé par 80% des Alsaciens. Mmh. Dans un sondage IFOP publié en août 2025.
Mais c'est donc, par identité culturelle plus que par conscience de ses intérêts économiques.
Alors c'est là tout l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, qui supporte cette loi? C'est l'ERN et ses Renaissance, ce qui est assez surprenant, sauf que là où l'ERN le supporte pour l'identité locale, pour le rejet des grandes régions et par méfiance envers... les institutions européennes. Au contraire, le centre va le défendre justement pour ses intérêts, parce que ça, c'est transfrontalier avec l'Allemagne et avec la Suisse. Mais les deux le défendent pour des manières, pour des raisons, pardon, bien différentes.
Et concrètement, ça va ouvrir finalement une route pour que l'Alsace devienne et une identité un peu à la Corse, quoi. C'est-à-dire davantage d'autonomie. Est-ce que ça joue pas un peu justement sur les régionalismes, même sur les nationalismes, même si ce mot est un gros mot en Alsace?
C'est surtout le populisme qui est pointé du doigt dans cette question. Ça ne sera jamais similaire à la Corse, parce que la Corse est complètement autonome, c'est une collectivité unique, un peu comme la métropole de Lyon, où on peut penser qu'il remplace le département du Rhône sur son territoire. En fait, le truc, c'est que le texte est assez flou. Il y avait un amendement, donc l'amendement 70 hier, qui a été rejeté à 65 voix pour, 69 voix contre, à cause du RN qui s'est abstenu. Et en fait, justement, cet amendement... Il devait définir un peu comment pouvait être mise en place cette espèce de nouvelle région. Sauf que le RN s'est abstenu, donc ça n'a pas été adopté. Donc en fait, on ne sait pas comment ça va se faire.
C'est une déclaration d'intention, un petit peu. C'est comme si l'Assemblée votait une résolution en disant dans l'absolu, on n'est pas contre, mais on ne sait pas comment. Quoi.
Exactement. En fait, l'amendement 70 dont je parlais, il ne changeait pas le principe, mais il ajoutait un espèce de mode d'emploi. Et en fait, ça aurait autorisé le gouvernement à gérer cette question par ordonnance. Sauf qu'en fait, le RN a dit pas du tout. On ne veut pas de ça. On ne veut pas que ce soit fait par ordonnance parce que ça va mettre 10 ans à être fait. Parce que concrètement, le gouvernement aurait décidé de la réorganisation administrative, de la répartition économique, des ajustements juridiques, du transfert des agents, etc. etc. Donc pour le RN, ça aurait pris 10 ans, et le RN veut que ça se fasse demain, évidemment parce que, je le répète, 80% des Alsaciens sont pour cette réforme.
Au-delà des questions économiques, et je me tourne un petit peu vers toute la table, c'est assez intéressant puisqu'on voit de toute façon se développer, alors l'aspect positif ce serait de dire un patriotisme régional, mais presque une envie de s'éloigner un petit peu de la France. Alors évidemment en Corse, cela revient de plus belle, en Bretagne aussi, l'indépendantisme breton revient, chez les Basques, ça existe encore, même en Franche-Comté, en Savoie. Enfin, on a quand même une voix de plus en plus forte de la part de ces peuples qui demandent davantage d'autonomie. Qu'est-ce qu'il faut y voir? Est-ce qu'il faut y voir justement un moment où la France est devenue tellement faible qu'elle suscite naturellement une forme de volonté d'éloignement? Valentin Gore, pour le sujet.
Alors vous avez peut-être raison, Marc, hein, parce que et si évidemment c'est tout le problème de cette question alsacienne qui est intéressante à bien des titres. Évidemment, nous ne pouvons qu'être favorables au retour des provinces historiques et au démembrement de ces régions que François Hollande a créées de manière absolument lunaire, avec des régions qui n'ont aucun sens, comme par exemple la région Hauts-de-France, qui signifie absolument rien par rapport à l'histoire de ces régions, la région Nouvelle-Aquitaine, qui qui représente quasiment un quart du pays en termes géographiques, vraiment des mélanges chez moi en Bourgogne-Franche-Comté, ça, toutes ces régions n'ont aucun sens, ont coûté beaucoup plus cher au final, parce qu'elles étaient censées faire des économies, elles ont coûté beaucoup plus cher. Alors la région Grand Est, c'est pareil, c'est vraiment un vide mémoriel total. Il y a des provinces qui existent, il faut les respecter, mais là où effectivement il y a un risque, en particulier avec l'Alsace, c'est qu'il peut y avoir une compétition entre les régions à partir du moment où on donne à la Corse certaines compétences. Alors, si les Alsaciens commencent à dire « pourquoi pas moi ?»,« les Basques, et pourquoi pas nous ?» Et après on se retrouve comme en Espagne, où un beau matin on se rend compte qu'il y a une région comme la Catalogne qui soudain demande son indépendance et qui organise un référendum absolument illégal.
Et que le comte à Venaissin qui pourrait demander son rattachement au Vatican, sûr, et on pourrait y aller extrêmement loin.
Non, mais on peut tout imaginer. Et puis en plus en Alsace, il y a une question supplémentaire qui se pose, hein. Vous avez dit collectivité européenne d'Alsace, avec la volonté peut-être de créer à terme une espèce de collectivité qui irait au-delà des frontières, qui irait un petit peu en Allemagne, éventuellement un petit peu en Suisse. Alors là, on est quand même dans le détricotage de l'État-nation, qui est quand même un fondamental en France.
C'est pour ça que Renaissance, d'ailleurs, soutient ce texte. C'est justement pour cette volonté un peu de grand pays européen, mais pas nos nations.
Mais ça pose un peu la question des alliances, en fait, parce que il y a eu au niveau des alliances locales, au niveau des alliances à l'Assemblée nationale, il y a eu des attelages assez baroques. Quoi.
Mais ce qui est assez marrant, c'est de voir la position des LR, notamment les LR sont très forts dans la région Grand Est. Sauf que ceux qui sont en Lorraine, Champagne-Ardenne sont là en mode ah non, on veut garder nos places parce que les places sont chères pour les LR et rares de plus en plus. Là où en Alsace, que ce soit LR, gauche, PS, enfin tout le monde est d'accord pour garder. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir la position des députés face à leur électorat local. Parce qu'en fait, ils sont pas d'accord. Et ça les met peut-être vis-à-vis de leur électorat local, ça les oblige peut-être un peu, et c'est ça qui est intéressant.
Les convictions à l'épreuve des électeurs. Françoise Voyer, est-ce que le Poitou veut demander aussi une collectivité autonome
européenne? Vous vous rappelez que la région Nouvelle-Aquitaine, justement, a été créée pour effacer les dettes de la région Poitou-Charentes, parce que c'était Ségolène Royal, la compagne de François Hollande, qui avait massacré les finances de cette pauvre région. Déjà un peu bâtarde.
Officiellement, vous êtes aquitain, en fait.
Je suis néo-aquitain, bien sûr.
Voilà, tout est dans le néo.
On est passé de Touraine-Poitou. Enfin, il y a des. Moi, je suis pour la France des provinces, bien entendu.
Les grands ministres des rois doivent se retourner dans leur tombe.
Tout le monde à cette table. Non, sachant que les limites des provinces continuent à être effectives et pertinentes sur le plan économique. C'est fascinant. Les bassins, c'est logique, l'architecture. Le mode d'alimentation, l'agriculture, bien sûr, la façon dont les paysages sont dessinés, est bien entendu lié à ces anciennes provinces. Et ça date, vous voyez, vous connaissez sans doute tous à cette table une ville qui s'appelle Ingrande. C'est un des rares mots gaulois de notre langue, et ça signifie frontière. Vous en avez un à la frontière de la Bretagne et de l'Anjou, c'est Ingrande sur Loire. Vous en avez un entre le Poitou et la Touraine, Ingrande sur Vienne, etc. Bon, on a nié tout ça. En fait, la présentation était magnifique, pour un sujet d'un ennui terrifiant, parce que là, on parle simplement de créer un nouveau bidule administratif qui viendra s'empiler sur les autres. C'est comme les
oui, mais on va supprimer les départements, vous savez. Alors.
Mais bien entendu, on le croit tous, naturellement. L'empilement administratif est effarant, et en découvrant ces dernières années par différents biais, élu conseiller municipal ou travaillant pour une région, certaines de ces strates, et maintenant conseiller d'agglo, mais si les gens savaient, ils se révolteraient tout de suite, selon le mot de Talleyrand. C'est absolument lunaire, parce que vous avez les strates où vous connaissez vos élus, c'est le cas en gros de la présidence, vaguement des députés de votre commune, mais qui connaît son conseiller d'agglo, qui connaît son conseiller départemental, qui peut citer les conseillers régionaux parmi les centaines, parce que c'est par centaines qui siègent pour ne à peu près rien faire. Genre, tout le monde est d'accord, en tout cas les partis responsables, le RN en premier lieu, sont d'accord pour dire qu'il y a trop de conseillers régionaux, au-delà même de la taille des régions. Vous avez, je ne sais pas, 250 ou 200 par région.
La région Grand Est, il y a 169.
Non, mais c'est délirant.
Il y a 69 bâtiments qui servent de conseil régional, quoi, en fait.
Oui, mais surtout, c'est 2500 euros par mois pour des gens qui travaillent 2 jours par mois en moyenne. C'est-à-dire que
vous avez bien devenu une administration.
Enfin, c'est absolument incroyable, parce que vous en avez énormément qui ne siègent jamais une fois qu'ils sont élus. Ils ont une légère taxe, enfin retrait de leur, leur indemnisation, indemnité, mais c'est vraiment lamentable. Heureusement que les gens ne savent pas, ça les rendrait fous en fait.
Et ben maintenant ils savent, en tout cas maintenant vous savez, chers auditeurs voilà. de Radio Courtoisie, et si ça vous rend fou, n'hésitez pas à nous l'écrire. Marie Le Chevalier, dernière question, puisqu'on a vu effectivement les députés qui ont voté pour se réjouir de ce vote en prenant notamment une photo, et certains internautes ont fait remarquer, donc déjà parmi tous les élus alsaciens présents, il y a évidemment pas ceux qui ont voté contre, mais ça peut se comprendre. Et bien, un député qui a voté pour était absent, c'est le député du RN Théo Bernard. Comme si finalement il risquait de gâcher un peu la photo de famille, c'est assez paradoxal.
C'est marrant parce que pourtant je l'ai eu au téléphone et c'était un des plus grands défenseurs de ce projet. Et lui en fait il a un raisonnement très simple, c'est de dire je veux rendre l'Alsace aux Alsaciens, il est lui-même Alsacien. Donc, je pense qu'il ne s'embarrasse pas d'une photo ou d'une énième polémique, il veut juste le bien des Alsaciens.
Rendre l'Alsace aux Alsaciens,
ça,
quel beau programme, c'était Laurent Jacobelli, mais en tout cas je pense que Théo Bernard ne l'aurait pas renié. Merci Marie des Chevaliers d'avoir été avec nous pour évoquer ce sujet alsacien. Restez avec nous chers auditeurs évidemment, parce que dans quelques minutes, d'ici un quart d'heure, nous recevrons Jérôme Sainte-Marie, politologue, responsable de la formation Rassemblement National, sondeur, avec qui nous reviendrons justement sur ce retour du clivage gauche-droite qui pourrait supplanter le retour des trois blocs. Il ne sera pas du tout d'accord avec cette analyse, donc je le laisserai y répondre. Mais en attendant, chers amis, on va partir en géopolitique. On va partir sur la géopolitique. On va partir sur ce qui se passe au Moyen-Orient, Iran, Israël, États-Unis. L'énième avertissement de Trump qui a abouti sur 2 semaines de cessez-le-feu entre la France et l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Donald Trump? Pardon pour la question assez franche. Quelqu'un qui a travaillé le sujet, Vendry de Yerpel, je sens que vous avez des choses à dire là-dessus.
Oui, bon, j'ai travaillé le sujet parce que, en tant que journaliste actu, maintenant, il faut que je suive. Et c'était pas simple à suivre parce qu'effectivement, on a eu le droit à un revirement assez spectaculaire. Dans la nuit de lundi, du coup, Donald Trump fait une conférence de presse où il explique qu'une civilisation entière peut mourir si l'Iran n'accepte pas ses conditions de cesser le feu, sans pour autant donner les conditions. Si le détroit d'Hormuz aussi n'est pas débloqué. Et donc, tout ça fait un peu monter la pression sur l'Iran, effectivement, complètement, parce que Donald Trump explique qu'il va détruire tous les ponts qu'il y a en Iran. Donc, forcément, on sent que l'embrasement était pas loin. Puis, finalement, le lendemain, il nous explique qu'il a trouvé un accord pour le cessez-le-feu qui repousse de 2 semaines son ultimatum. Et donc là, on a du mal à comprendre, puisque le cessez-le-feu... donc il s'accorde sur le cessez-le-feu sauf pour le Liban. Donc en attendant au sud du Liban, les bombardements continuent.
Là, sauf le Hezbollah, oui.
Exactement.
En tout cas, on arrête de frapper l'Iran. Exactement. Par contre, on continue nos attaques sur le Hezbollah, donc sur le
Liban, sud du Liban,
raison,
en particulier. Et donc après, on a nos amis européens comme Emmanuel Macron et Keir Starmer justement qui courent après effectivement les déclarations de Donald Trump, puisqu'ils veulent avoir une place. Sur la grande scène internationale. Or, l'Europe, on le voit bien, a du mal à peser sur la scène internationale. Donc voilà, donc, tout ce bazar pour pas grand-chose, finalement.
Valentin Gore, c'est vrai qu'on a eu... Alors, j'avoue que on était tous en fête pascale, donc on a peut-être tous suivi ça de loin, mais cette vision de Donald Trump menaçant l'Iran avec un lapin de Pâques géant à côté de lui au balcon. Honnêtement, alors on a très bien bu à table. Je me suis dit, c'est peut-être moi qui ai abusé du Bordeaux. Je dois pas voir ce que je vois, c'est pas possible.
Donald Trump en a joué de ça, il a dit.
Il en a joué, bien sûr.
Oui. Le lundi de Pâques, je peux pas leur faire. Leur donner l'ultimatum tout de suite, pas un lundi de Pâques.
Et on le voyait menacer l'Iran et le lapin à côté, vraiment au filet du chef avec les oreilles, chef, c'est comme ça. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens.
Oui, en même temps, c'est ressemblant à ce que sont les États-Unis. Hein. Vous avez Top Gun et Hollywood et Walt Disney avec ce lapin de Pâques sur la même image. Donc, c'est finalement, ça leur ressemble beaucoup. Ce qui est certain, c'est que je crois pas que les États-Unis sortent très grandis de cette opération dont vraiment on n'a toujours pas compris le sens. On s'est demandé si Trump lui-même l'a compris. On a le sentiment qu'il change d'avis sans cesse. ces propos quand même de destruction d'une civilisation qui sont quand même des propos extrêmement graves, hein, même s'ils ne sont pas suivis des faits. Et là aussi, attention, parce qu'à force d'entendre ce genre de propos, on finit par les banaliser. C'est que c'est quand même vraiment, c'est lunaire d'entendre ça. Donc maintenant, écoutez, on sait plus comment analyser cette politique américaine, sinon en citant. Il paraît que c'est Churchill qui l'avait dit. On peut toujours faire confiance aux Américains pour prendre la meilleure solution après avoir essayé toutes les autres. Donc on va voir ce qu'il en sera.
C'est vrai que cette déclaration de Trump disant non pas je vais en finir avec le régime des Mollahs, mais je vais anéantir une civilisation, en plus en laissant planer un espèce de doute sur une éventuelle utilisation de l'arme atomique, parce que c'est de ça dont il était question. Même si la Maison Blanche a démenti ça très vite, mais on a l'impression qu'en fait, s'il voulait réveiller le nationalisme iranien et ressouder la nation iranienne par défaut autour du régime des Mollahs, il ne se serait pas pris autrement. Qu'est-ce que c'est que ce langage diplomatique? Parce que Donald Trump nous a habitués à un langage très binaire entre le bien, le mal, entre ce qui était le bien, ce qui était le mal, mais là, il y a une confusion, en fait.
Je pense qu'il est incontinent sur tous les plans et... j'avais été frappé par le duel, le premier duel.
Mais
véritablement.
C'est très bien. Okay. Vous avez des infos qu'on n'a pas.
Mais je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Moi, j'avais été frappé. Il y a différentes manières de dater la fin de l'Empire américain. Est-ce que c'est le retrait d'Afghanistan piteux après 20 ans inutile? Est-ce que c'est déjà le 11 septembre? Je ne pense pas. Je pense qu'il a fallu un peu plus de temps. Et pour moi, en tout cas, chacun a sa date. Est-ce que c'est. Effectivement, là, en Iran, moi, c'était le premier affrontement Joe Biden-Donald Trump. Parce que voir deux vieillards, malgré tout, objectivement vieillards, s'affronter avec des procédés d'une vulgarité que même, c'est vrai, les États-Unis, etc., enfin là, on atteint des sommets tout de même. Eh bien, c'était vraiment l'image du déclin. Et j'avoue. Le premier mandat, j'avais plutôt, j'allais dire, un rapport bienveillant à son premier mandat, où il a d'ailleurs largement respecté ses promesses, et en particulier celle de l'isolationnisme. Enfin, il n'a déclenché aucune guerre à ce moment-là, pendant le premier mandat. Le second, en fait, j'avais eu la chance de connaître une personne qui avait travaillé dans l'administration Trump, la première, et qui préparait la campagne pour le second mandat. Il était venu en observateur pour les élections législatives de juillet 2024, il me demande un moment, tous les deux, sans téléphone, on laisse nos téléphones, on les éteint, etc. Il me dit, écoute, je dois te dire deux choses. On était donc en juillet, les élections allaient avoir lieu en novembre. Et la première, c'est que Donald Trump va l'emporter très largement, contrairement à ce que tout le monde imagine, très largement, et ça sera sans doute le républicain le mieux élu de ces dernières décennies. La deuxième, c'est qu'il est devenu complètement cinglé. En fait, il m'a dit qu'il était rongé par le désir de vengeance. Il estime que son élection de 2020 lui a été volée. Et vraiment, son but, c'est j'y retourne, mais cette fois-ci, mais je mets les pieds dans le plat, je les remue, je les agite, je les clabousse tout, je démolis tout. Et ça a commencé, c'est là, toute chose est dans son fondement, par du népotisme, du clientélisme, de la corruption, un massacre écologique. Je veux dire, avant même ces histoires-là, on se rend compte, il y a eu des pro-Trump, je le comprends, parce que forcément, comme la gauche
le détestait, on va y revenir sur les pro-Trump.
On avait envie de l'aimer. Mais si on regarde attentivement ce qu'il a créé, ceux qui l'ont porté au pouvoir, je pense en particulier au lobby pétrolier, tout de même, qu'il a fait sa grande réconciliation avec ce lobby, tout de même sacrément mortifère, drill baby drill, hein, selon son grand mantra, on ne pouvait que s'inquiéter dès les début. Le problème, c'est que c'est de pire en pire. Et moi, je suis très inquiet parce que vraiment, j'attends les midterms avec impatience, en ayant l'espoir qu'il sera un peu paralysé à ce moment-là. C'est terrible d'en arriver là. Mais je pense que ça va devenir l'idiot utile de la gauche, des gauches, et que ça peut faire tomber pas mal de régimes européens.
François Devoyer sur Donald Trump, vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Vous pouvez bien évidemment réagir à cette émission à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Il est vrai que Donald Trump, Vendry de Yerpel, ça a toujours été une figure appréciée à droite. Les gens ont apprécié sa liberté, son côté rentrer de plein fouet l'État profond. Son premier mandat, c'était en tout cas l'assurance d'un non-interventionnisme américain. C'est-à-dire Donald Trump, c'était un président qui ne faisait pas la guerre. Force est de constater que son deuxième mandat ne ressemble plus au premier, et on voit dans la galaxie française la droite pro-Trump commencer un petit peu à sortir les rames pour justifier cette politique américaine.
Oui, enfin c'est un peu comme tout, hein. C'est comme l'ancienne droite qui était fan de Poutine à l'époque, et ben forcément une fois que la Russie envahit l'Ukraine, et ben y a plus d'amis, on n'est plus amis avec Poutine, et donc on supprime toutes les photos qu'il y a pu y avoir, tous les liens, les échanges de mails, etc. Et aujourd'hui, avec Donald Trump, on sent une grosse reculade de la droite française. Et il faut dire que la droite française a été assez fan de Donald Trump parce qu'il avait un côté punchy, parce qu'il était libéral, parce qu'il était conservateur, parce qu'il rêvait d'un Trump à la française. Et sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est pas les mêmes pays, et donc du coup c'est pas les mêmes mœurs, donc ce n'est pas du tout la même histoire aussi. On parlait tout à l'heure de la nouvelle compagne de Jordan Bardella. Effectivement, le côté en France où on a été habitué à la monarchie pendant très longtemps, les États-Unis l'ont pas vraiment, donc c'est pas du tout la même histoire. Et moi je suis toujours assez amusé de voir ceux qui se réclament milléistes, qui se réclament trumpistes, qui se réclament en fonction des courants dans
Bucheliste,
les autres pays.
Bucheliste exactement. Aussi, comme Nayib Bukele, le président du Salvador.
Et on ne gagne jamais rien à s'inspirer et à être les porte-serviettes des dirigeants étrangers. Justement, on peut, en revanche, essayer de voir ce qui fonctionne ailleurs. Et voilà. Mais oui, oui. Et puis, c'est arrivé aussi, notamment, quand Jordan Bardella devait se rendre à la CPAC, rappelez-vous. Et que c'était Elon Musk qui avait fait...
Steve Bannon qui avait fait... Invité d'honneur du Front National lors d'un de ses congrès il y a quelques années.
2018. Et qui avait fait ce salut nazi, ou en tout cas ou romain, enfin voilà. Jordan Bardella avait tout de suite annulé sa venue et était rentré de l'aéroport.
Absolument. Valentin Gore, juste pour... Est-ce qu'on ouvre enfin les yeux sur... sur la réalité du trumpisme, peut-être que l'opposition qu'on pouvait avoir face aux démocrates, face à la doctrine des néoconservateurs, a pu pousser une partie de la droite dans les bras de Donald Trump, et qu'on est en train d'y revenir progressivement.
Bah, je l'espère.
Non, revenir, pardon.
Je l'espère très vivement, parce que vous l'avez très bien dit, le drame, et c'est un peu le drame de la France, aussi bien à gauche qu'à droite, c'est qu'il y a toujours beaucoup de gens pour jouer plus ou moins consciemment le jeu de d'autres pays, de pays étrangers, de s'inspirer, de se mettre sous la coupe ou sous l'exemple de tel ou tel. C'est toujours une erreur. Et puis, il faut pas oublier qu'au-delà de Donald Trump, et ça vaut pour tous les pays, au-delà de l'apparence, de la couleur politique qu'ils ont au moment donné, il y a une réalité profonde. Et on sait bien que la politique américaine, en réalité, il y a une remarquable continuité depuis des décennies et des décennies. Mmh. Et ça vaut pour tous les pays du monde. Et ça doit valoir aussi pour la France, qui doit retrouver ce chemin-là de sa politique étrangère, qu'elle a hélas bien perdu aujourd'hui. Il faut absolument retrouver ce fil qui a été tiré en France depuis les rois capétiens, avec des grands principes. Il faut y revenir et sortir d'un espèce de fonctionnement totalement hiératique qu'on observe aujourd'hui.
Mais pour revenir sur l'Iran, on a quand même un peu l'impression, enfin on ne sait pas qui a informé Donald Trump de la réalité de l'Iran. Si vous voulez, on a vu cette opération menée avec succès au Venezuela, donc l'arrestation de Nicolas Maduro, totalement discutable sur le plan du droit international, on est bien d'accord, mais en tout cas efficace dans une certaine mesure, même si en réalité ça n'a pas réglé le problème de la dictature au Venezuela, mais est-ce que les Américains interviennent pour établir la démocratie, ça c'est un autre sujet. En tout cas, on a un peu l'impression, en fait, on a l'impression qu'il y est un peu allé comme si c'était une opération Venezuela bis, en se disant une fois qu'on aura tué les ayatollahs, eh bien l'Iran s'effondrera. Est-ce qu'on lui a dit vous inquiétez pas, président Trump, l'Iran va s'effondrer, le régime des mollahs va s'effondrer comme un château de cartes? Est-ce qu'il n'y a pas eu une sous-estimation totale de la situation? Et est-ce que là, on n'est pas face à un président des États-Unis qui n'attend qu'une seule chose, c'est de finir cette guerre le plus rapidement possible et se désengager au plus vite? Finalement, est-ce que c'est pas une tentative de fuite là? Il est en train de faire François Loyer.
Alors, si vous voulez lire dans
les pensées de
Donald Trump, écoutez, bon courage. je ne sais pas si vous, Valentin Gore, terminez par hiératique ou erratique, mais en tout cas, voilà, c'est le mot erratique qui me vient à l'esprit. Non, la seule chose dont on peut se réjouir, c'est qu'enfin la droite, partie de la droite, ouvre les yeux sur les turpitudes du bonhomme, encore une fois, il a fallu pour certains attendre la guerre en Iran. Je vous assure que si vous regardiez de près ce qui s'est fait, et en particulier, comme je le disais, les liens avec les conflits, les lobbies pétroliers, le népotisme, le clientélisme, la corruption, ça c'était dès le départ. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? C'est impossible à dire. Moi, je pense qu'il ne l'a plus forcément entièrement, sa tête. Je vous dis, ce combat sénile qui était à l'image du déclin américain Biden-Trump, et ben voilà, on a l'autre face. On a connu le premier pendant qui était plutôt inoffensif, j'allais dire, dans sa dérive vers le grand âge. Là, on a la version un peu plus inquiétante. Mais non, à part les quelques insiders, comme on dit, qui peuvent parier sur les déclarations de Donald Trump 5 minutes avant qu'il prenne la parole et gagner ainsi quelques centaines de millions de dollars, je pense que personne ne peut savoir ce qu'il va faire dans les semaines à venir.
Personne ne peut savoir ce que va faire Donald Trump dans les semaines à venir, mais que va faire la classe politique dans l'année à venir? C'est la question qu'on va poser en somme à Jérôme Sainte-Marie, sondeur et politologue, président de l'Institut Polling Vox, qui nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie.
Bonsoir.
Vous êtes sondeur et politologue. Première question, Jérôme Sainte-Marie, puisqu'on a suivi l'actualité. On vous avait débattu récemment avec Jean-François Copé dans l'Express. Jean-François Copé, maire de Meaux, qui a sorti un livre pourfendant le populisme. Deux visions antagonistes, finalement, se sont exprimées dans les colonnes de l'Express.
Oui, je dois dire que cet entretien, donc je remercie Éric Mandonnet, qui est journaliste à l'Express, de cette invitation. J'étais, si vous voulez, toujours un peu honoré de discuter avec une figure éminente de la droite comme Jean-François Copé. J'avoue que ce sentiment n'a pas totalement résisté ni à la lecture du livre, ni à l'entretien, puisqu'au fond, les arguments de Jean-François Copé m'ont beaucoup, beaucoup rajeuni. Ça m'a ramené à 1992, c'est-à-dire à la thématique développée par les partisans du oui, de droite comme de gauche, qui cherchaient à infantiliser, à discréditer les partisans du non. L'opposition que trace Jean-François Copé entre les charlatans, c'est moi, c'est vous sans doute, c'est donc les gens qui ne votent pas bien, et les docteurs,
oui, c'est ceux,
les partis de gouvernement qui, comme vous savez, ont prodigué des soins tellement efficaces à notre pays qu'on a on approche les 4000 milliards de dettes, et entre autres mots. Donc si vous voulez, c'était une forme de disqualification. Son discours est très classique, c'est une forme de disqualification de toute voix, je ne dirais même pas dissidente, puisque c'est la voix majoritaire en l'occurrence, et celle qu'il est actuellement et qu'il a été par exemple en 2005 lors du non au référendum sur le TCE. C'est un propos qui m'a paru très faible, et comme je prends Jean-François Copé pour quelqu'un d'intelligent, j'en ai déduit que l'objet de son livre était tout à fait autre. L'objet de son livre me paraît évidemment de préparer un énième ralliement au Bloc central et à son candidat pour la présidentielle.
En tout cas, c'était une information qui était sortie dans le Figaro et qui prédisait le ralliement notamment de Jean-François Copé et de Valérie Pécresse, potentiellement Édouard Philippe, information que les intéressés ont niée avec la plus grande des véhémences. Jean-François Copé était hier chez nos confrères de RTL. Il a eu une prise de position assez intéressante sur le voile que je vous propose d'écouter.
Dire aujourd'hui, comme le disent les partis populistes, là pour le coup c'est le RN, qu'il faut interdire le port du voile est aujourd'hui en réalité une illusion.
Et d'accord, mais alors...
Parce que c'est trop tard. Si on devait le faire, c'était peut-être il y a 25 ans.
C'est trop tard, si on voulait le faire, c'était peut-être il y a 25 ans. Alors, j'ai pas mis l'extrait en entier, mais dans cet extrait, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que Jean-François Copé, donc maire de Meaux, ancien président de l'UMP, explique que ce qui a donné des ailes au populisme, c'est l'incapacité des partis de gouvernement à expliquer les choses positives qu'ils ont pu faire. Et ce qui est amusant, c'est que ce même Jean-François Copé, patron de ce qu'on appelait la droite décomplexée, donc la droite qui osait dire ces quatre vérités à la gauche et à la montée du communautarisme, eh bien explique que s'il fallait agir, c'était il y a 25 ans, c'est-à-dire au moment où eux-mêmes étaient au pouvoir, quelque part, Jérôme Sainte-Marie.
Oui, je vais faire encore une fois œuvre d'historien, si vous voulez. Et je me souviens, j'ai l'âge de me souvenir de l'affaire de Creil, la première affaire des lycéennes. Donc, elles étaient deux, je crois, simplement. Et à l'époque, et d'ailleurs, moi-même, j'étais hésitant, je vais vous le dire, j'avais 23 ans, j'étais hésitant, me disant, mais est-ce qu'on donne pas trop d'importance à cette affaire? Est-ce qu'on n'est pas en train de créer, par un effet de loupe médiatique, des vocations? Est-ce qu'il faut pas le laisser passer? Cette idée, je vous rassure, je ne l'ai pas gardée longtemps, mais c'est vous dire à quel point en 89, si vous voulez, c'était deux personnes. cette affaire du voile. Et c'est bien parce que, et c'est le laisser-faire n'a engendré que une amplification telle du phénomène qu'on se pose effectivement des questions sur ce qu'il est possible de faire. Moi, je crois qu'il est toujours possible d'agir. J'ai en tête l'action de, par exemple, de Monsieur Bourguiba en Tunisie. Vous voyez l'action qui a été menée par des gouvernements laïques dans les pays arabes. Puisque je vous ai entendu parler tout à l'heure, je soulignerai d'ailleurs que ces gouvernements laïques dans les pays arabes ont toujours été en but à l'hostilité, voire l'agression armée de l'Occident. Bon, ça c'est un autre problème, mais toujours est-il que ces pays,
on va pas refaire le débat géopolitique.
Voilà, mais ces régimes laïques, je le souligne, du Proche-Orient, du Maghreb, etc. Eh bien. Ou de l'Égypte à l'époque, on va mener dans des pays où forcément le problème se posait de manière massive, on menait des politiques laïques. Voilà. Pourquoi ? Après, on ne peut le faire que si, si on donne des perspectives. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des perspectives pour l'ensemble de la société française, dont d'ailleurs la population musulmane. C'est-à-dire que c'est bien qu'il faut bien avoir un effet d'entraînement, y compris dans la population concernée, pour arriver à cela. Je pense que j'aurais 2-3 pistes à vous suggérer si jamais on devait en parler, mais je crois que je suis pas venu pour ça, donc je vais vous écouter la prochaine question.
On va revenir un petit peu justement sur, vous parlez du bloc central, et c'est un petit peu celui qui va nous occuper pendant ces prochaines minutes, puisqu'on le voit, la Macronie, en tout cas, ceux qui ont mené Emmanuel Macron au pouvoir et ceux qui gravitent autour d'Emmanuel Macron sont en train, en tout cas d'apparence, de se retirer au fur et à mesure, comme si finalement le vieux monde revenait. On se rappelle tous de cette image de Gabriel Attal laissant Matignon à Michel Barnier. Gabriel Attal, jeune phénix prometteur de la Macronie, laissant la place à Michel Barnier, vieux dinosaure des Républicains dont tout le monde pensait, sans lui faire offense, que la carrière politique était plus ou moins terminée. Donc cette image a été un symbole de ce retrait de la Macronie. Est-ce qu'on assiste à une agonie, tout simplement, pas du bloc central, bien évidemment, puisqu'on voit qu'il est en train de se reconstituer autour d'Edouard Philippe notamment, mais est-ce qu'on assiste à la fin du macronisme ?
Ah ben pas du tout, c'est au contraire, c'est je sais pas, c'est Matrix Reloaded en quelque sorte, vous voyez, c'est-à-dire que là, ça, je connais pas du tout les termes informatiques, donc je vais pas essayer, mais si vous voulez, la machine est en train de se reconstituer,
la machine,
et on m'a parfois, y compris dans certains médias de droite, reproché d'être un peu trop, de croire que la politique ne s'explique pas par elle-même, mais s'explique par les forces sociales qui soutiennent, des sociologues du 19e siècle, assez célèbres ont théorisé ça, je vois que ça fonctionne. C'est la thèse de mon bouquin Bloc contre Bloc. Je vois que ça fonctionne, c'est-à-dire que les forces sociales qui ont été à l'origine, qui ont construit le macronisme, Macron n'est pas l'inventeur du macronisme, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il ne sera pas non plus le fossoyeur du macronisme. Le macronisme existait avant Macron, il n'était pas ouvertement au pouvoir, il était divisé, le macronisme existera après Macron, parce que le macronisme n'est autre que la traduction de d'un bloc élite, ce que j'appelle un bloc élitaire, on peut appeler ça une certaine classe dominante, et celles qui se retrouvent dans une idéologie libérale et européiste, et qui dispose de moyens et d'influence considérables. Alors on a parfois tendance à l'oublier, parce qu'on partage peut-être pas forcément exactement le même engagement politique, mais on doit pas être très éloigné les uns des autres, et donc on vit dans d'autres mondes, mais ce monde-là existe. Je soulignerai une chose très bête. Après 5 ans au pouvoir, Macron a réussi à augmenter son socle de départ, c'est-à-dire son score de premier tour, de 4 points. Il a 4 points de plus en 2022 par rapport à 2017. Il y a des soutiens.
Qu'il a agrégé le vote des retraités qui lui avait échappé en 2017 aussi.
En 2017, c'était déjà assez fort, mais ça s'est parce que Fillon lui en avait pris pas mal au premier tour, mais au second tour, ça allait. C'est une base solide et qui cherche son champion. Évidemment que la personne qui sera choisie fera sa campagne en dénigrant autant que faire se possible la personnalité d'Emmanuel Macron. Alors, je ne vais pas refaire le truc de Lampedusa, je ne vais pas retrouver la phrase célèbre, mais effectivement, ça ne changera pas beaucoup.
Très bien. Je vais laisser évidemment mes camarades soit intervenir pour vous poser des questions, soit pour entamer un débat. Néanmoins, donc vous y avez un peu partiellement répondu, mais finalement, l'avenir du bloc central est assuré, et fait au fond, que ce soit Édouard Philippe ou un autre, c'est assez secondaire pour vous.
Ah oui, vous savez, quand les gens ont voulu tourner la page de Nicolas Sarkozy, ils ont même voté pour François Hollande. Vous vous rendez compte ? Donc vous savez, à un moment donné, quand les gens veulent quelque chose, ils partent le candidat il parle par le verbe parer, donc le candidat qui s'impose à leur choix, il le pare de toutes les vertus, parce qu'il est nécessaire. C'est pour ça qu'il y a eu une Jospinomania à une époque, il y a eu une Hollandomania, ça paraît très étrange, mais parce que c'était nécessaire.
Une Juppéomania aussi.
Ah oui, mais voilà, donc je pense, alors bon, évidemment ça se dirige plutôt vers Édouard Philippe, mais ça pourrait être Lecornu, Castex ou quelqu'un auquel on ne pense pas, mais il remplira une fonction. Cette fonction, elle est directement tracée aujourd'hui. Moi j'ai vu les unes du Point, j'ai vu les unes de Challenge, j'ai vu les unes de tout cela, vous voyez, c'est pas tout à fait la même sensibilité, mais ça sera à peu près les mêmes intérêts et donc le même choix. Donc je ne sais pas du tout qui ce sera. Mais mon pari que je fais depuis un certain temps, que nous serons le Rassemblement National, puisque je suis cadre du Rassemblement National, eh bien que nous serons face à un candidat moins facile que Jean-Luc Mélenchon à battre, c'est-à-dire un candidat du Bloc Central, eh bien cela me paraît très largement confirmé depuis quelques semaines.
On va y venir. Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue, président de l'Institut Polling Vox et aussi en charge de la formation au sein du Rassemblement National. Vendry de Yerpel, vous avez une question ou une remarque à faire à Jérôme Sainte-Marie?
Oui, j'avais une question, c'était pour savoir votre lecture. Alors tout à l'heure, on a parlé du dîner de Marine Le Pen mardi soir avec les milliardaires. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé, quand on est candidat à l'élection présidentielle ou candidate comme pourrait l'être Marine Le Pen si elle est éligible, être validé par ce monde-là, justement, que vous disiez plutôt centriste, libéral et européen?
Alors, vous faites allusion, je pense, au déjeuxdéner, je pense que c'est un déjeuner.
Oui, c'était un débout.
Oui, c'est pas très grave.
Était présent notamment Bernard Arnault et de nombreux autres chefs d'entreprise.
Alors, vous venez de prononcer le mot milliardaire, c'est pas tout à fait ça, c'est même pas ça du tout, ce sont des chefs d'entreprise.
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? La différence est majeure. C'est-à-dire que nous sommes avant tout le parti de la production et la ligne qui est développée depuis des années. Et que je soutiens par ailleurs pleinement, et de sortir, de la même manière qu'on essaye de sortir d'une opposition stérile gauche-droite, on essaye également de sortir d'une opposition artificielle, dans l'État ou l'économie française réelle, entre le libéral et le social. Personne, pour ainsi dire, n'est vraiment libéral en France, et personne ne peut tellement proposer plus de social qu'il y a aujourd'hui, où l'argent public est littéralement partout et étouffe l'économie. Donc on est dans une logique de production, et effectivement de développer tout ce qui peut être dans la production. Alors, je vais même développer ça de manière peut-être plus originale sur votre radio, en soulignant un fait très intéressant, c'est que le conflit social qui peut exister, et même le discours social de l'Église en témoigne, entre, vous voyez, les travailleurs et patronat, par exemple. Hein, c'est pas marxiste, hein, c'est vieux comme le monde. Et ça a été développé par, encore une fois, par la pensée sociale de l'Église, notamment au début du 19e siècle. Eh bien, ce conflit social, il n'a plus tellement lieu au sein de l'entreprise. Vous savez, il n'y a jamais eu aussi peu, le MEDEF a les chiffres, il pourra vous le confirmer, aussi peu de jours perdus pour fait de grève en France, en général, et notamment dans le secteur privé. Pourtant, les salaires sont remarquablement bas. Tout cas, les augmentations de salaires dans le privé sont très bas.
Pas l'inflation, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sont très très basses, et encore, et ces salaires sont largement portés par de l'argent public pour les bas salaires via la prime d'activité. Donc, c'est un système totalement anomique. C'est très mauvais signe, en réalité, qu'il y ait si peu de grèves dans le secteur privé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lutte pour le partage de la valeur ajoutée, parce que la valeur ajoutée, elle, n'est plus tellement là. Vous voyez. Et donc, même les gilets jaunes se sont pris au symbole de l'État, et non pas au symbole du patronat. Moi, j'étais avec les Gilets jaunes quand nous sommes passés devant le siège du MEDEF à Paris, alors que devant n'importe quelle sous-préfecture, si vous voulez, il y avait de l'agitation. Là, c'était l'indifférence la plus totale. Donc, nous sommes pour, effectivement, le développement par tous les moyens de la production. C'est la condition de la grandeur de la France et même, en réalité, de sa survie. Donc, pour cela, si vous voulez, l'heure n'est pas à rentrer dans une espèce de conflit social au sein de l'entreprise, mais de permettre aux entreprises de se développer.
François Loyer.
Question assez simple, mais quelle stratégie adopter pour contrer le bloc élitaire? C'est-à-dire qu'on entend, il y a des courants. Pas de rupture, mais des courants. Voilà. Certains, on le sent, vont aller plus vers une centrisation. D'autres veulent maintenir l'aspect social de manière essentielle. Quelle est, à votre avis, la meilleure approche?
La ligne de crête,
pour
presque.
Éviter le renouvellement, la reconstitution de ce bloc élitaire?
Alors, je crois tout simplement que nos idées sont majoritaires et pas seulement pas seulement sur la question de l'immigration ou bien sûr de la sécurité. Là-dessus, effectivement, nos idées sont très largement majoritaires. La question est de savoir pourquoi, alors que 66% des Français sont d'accord avec nous sur la question de l'immigration, nous ne sommes pas 66% au second tour. Nous constatons également que beaucoup de gens sont d'accord sur la priorité à donner au pouvoir d'achat. Et beaucoup de gens sont d'accord aussi sur le constat qui est fait d'un déclin de la France et d'un niveau de dette, notamment, qui est littéralement affolant. Beaucoup de gens sont d'accord également pour avoir une critique, non pas pour une sortie de l'Europe, mais pour avoir une critique forte de l'Europe, et ainsi de suite, et dénoncer les traités, etc. Moi, je crois que il ne faut pas rentrer sur des logiques, comment dirais-je, des calculs uniquement en termes d'effectifs partisans. Tout simplement parce que les électorats, ça bouge. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai 60 ans, je pourrais décider d'être jeune demain, je crois que je n'y arriverai pas. Je fais un certain métier, je voudrais décider de faire un métier technique que je ne maîtrise pas, demain, je n'y arriverai pas. Par contre, si je veux changer d'opinion, je peux le faire dans le courant même de cette émission. Et c'est ce que font les Français en réalité, c'est-à-dire que les catégories partisanes n'existent, et c'est un sondeur qui parle, que de manière relativement éphémère. Changer d'opinion, ça ne coûte rien. Alors qu'on ne peut pas changer ce que l'on est socialement, générationnellement, techniquement. Donc, je crois qu'il faut raisonner en termes selon des catégories sociales et générationnelles. C'est d'ailleurs ce que fait Marine Le Pen et Jordan Belade depuis le départ. Et c'est comme ça qu'on progresse sans cesse. Si vous voyez, en partant des problèmes des gens, en conquérant cela, ça serait beaucoup plus facile de raisonner en disant « on va faire l'union de ceci ou l'union de cela ». Mais ça n'arrivera pas en réalité. Vous voyez, c'est pas pratique. Et donc, beaucoup de gens se disent, on prend tel, c'est des stratèges en chambre, on prend tel électorat, on en prend tel autre, on les additionne, etc. Mais si les gens sont séparés, c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons de l'être. Et inversement, je crois qu'il faut continuer et que ce qu'il faut déjà, c'est faire le meilleur score possible au premier tour et établir un rapport de force qui fera que les termes des alliances seront totalement modifiés dans les deux semaines de l'entre-deux-tours.
Vendry de Guerpel, vous avez quelque chose à
oui,
dire?
Oui, si je tire un peu plus loin votre analyse, autant supprimer les partis politiques, hein, c'est la vieille idée de Simone Veil, puisque si les partis, si on ne peut pas s'accorder effectivement, et s'il ne faut pas raisonner comme ça entre alliances, etc., autant supprimer carrément un parti politique, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de militants en France, on n'est plus à l'époque des où le Parti communiste avait, où tout le monde avait sa carte au Parti communiste ou ailleurs, donc autant...
Alors vous me posez, je suis ravi de cette interview, parce qu'on n'a pas préparé ensemble, mais vous me posez que des questions que j'adore. Justement, c'est une de mes théories.
Alors je précise qu'évidemment, on n'a pas préparé l'interview ensemble, et que Jérôme Sainte-Marie n'avait pas les questions en amont, voilà. Je préfère quand même le dire.
Parce que justement, vous touchez à cette question des partis politiques, alors c'est une de mes fixettes, c'est de voir que, justement, il y a quelques années, tout le monde nous expliquait que les partis politiques, c'était fini. Qu'il n'y avait plus que des mouvements, des flash mobs, en quelque sorte, ou des trucs, des tas gazeux, les machins, tout le monde allait sur son innovation, etc. Or, le premier parti de France, celui qui est le plus apprécié, dont les leaders font 35% quand ils sont testés actuellement au premier tour, qui sont les plus populaires, tout tourne autour du RN, hein, qu'on le veuille ou non.
Vous précisez que dans les sondages, dans le sondage Odoxa pour le Huffington Post sur les personnalités politiques préférées des Français, le trio de tête, c'est Jordan Bardella, Marine Le Pen, Marion Maréchal.
Voilà. Bon, parfois Édouard Philippe est parfois aussi en troisième position.
Édouard Philippe est en train de remonter, effectivement.
Soyons fair play malgré tout avec l'adversaire.
Édouard Philippe est remonté à la quatrième ou la cinquième place et enregistre sa plus grosse progression de tout ce padel.
Oui, alors justement, moi, ce qui me frappe, c'est que le Rassemblement National a été totalement fidèle à sa forme parti. Vous voyez, on peut pas être plus traditionnel que l'organisation du Rassemblement National et même que du Front National. Alors, ça a été toilété parce que Jean-Marie Le Pen, comme vous le savez sans doute, en 1972 et dans les années qui ont suivi, avait calqué les structures et même les termes de ces structures du Front National sur le Parti communiste français. Il y avait un bureau politique, il y avait des trucs comme ça. Bon, tout ça est un peu vintage et a été totalement lissé.
Mais par certains vieux cadres du Front National, du Rassemblement National vous expliquent qu'ils assument tout à fait l'aspect stalinien.
Non, mais je n'ai pas dit ça.
Non, je sais bien, moi,
ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un parti structuré, avec des structures vraiment très formelles. Vous voyez, la commission des conflits, la commission d'investiture, également la question, donc on n'est pas investi comme ça, tout est très régulé, voilà, dans ce parti, il y a des formations, c'est ce dont je m'occupe, et ainsi de suite. Et cette structure parti correspond parfaitement à un besoin, notamment quand vous devez encadrer des catégories populaires. Vous voyez, c'est très très frappant. Et moi, j'étais frappé par cela quand Jordan Bardella, en décembre, est venu dans mon département à mon invitation, donc pour signer son livre. C'était en décembre près de Gap, et il y a eu 1000 personnes qui, dans le froid du mois de décembre dans les Hautes-Alpes, ont fait la queue pendant 5 heures. Ils étaient encadrés par un service d'ordre qui s'appelle le DPS, il y avait des gens pour les accueillir, pour les structurer, etc. Mmh. Tout ça, c'est un parti qui fonctionne. Nous sommes justement totalement un parti politique. Ah ben non, bien sûr que non, mais ils ont confiance, parce qu'ils ont confiance à un parti qui permet de structurer des choses, parce que, et ça permet également de faire émerger des gens qui, ça se voit pour nos élus, c'est très net, des gens qui ont une sociologie beaucoup plus conforme à l'état réel de la société française. Si vous devez recruter uniquement des énarques, que des Sciences Po, etc., c'est assez facile. Mais là, au contraire, on fait émerger à travers les élections, ça se voit chez les candidats comme chez les élus.
Même Jean-Marc Bardella, d'ailleurs, en fait, qui a commencé simple militant et qui a monté.
Mais absolument. Vous avez effectivement ça fonctionne comme un appareil de promotion politique et de formation qui permet justement, et ça c'est très apprécié. C'est très apprécié. Voilà. Après, moi je parlais tout à l'heure de ne pas résumer, si vous voulez, d'être très prudent sur ce qu'on appelle les sympathisants de partis politiques. Je finis juste par là. Vous savez, quand on raisonne sur, voilà, dans les sondages, que nous disent les sympathisants LR, les sympathisants RN, les sympathisants... Alors là aussi, je vous donne la question à partir de laquelle c'est construit. Si on demande aux gens, parmi les partis politiques suivants, duquel vous sentez-vous le plus proche ou sinon le moins éloigné? Donc les gens choisissent, mais ils ne sont pas forcément des vrais partisans. Vous voyez, en dehors du sondage, il y a certains qui se vivent vraiment comme sympathisants de tel ou tel parti, mais sinon, pour les autres, ils viennent juste de répondre à une question.
Alors, il y a d'autres sujets, bien évidemment. Il n'y a pas que le Rassemblement National. Il y a aussi la question de la France insoumise, finalement, parce qu'on sait, sait que dans votre théorie, donc sur les blogs, est-ce que, question très simple, vous aviez déclaré en 2022, il me semble, que la France insoumise n'était pas d'après vous un bloc populaire. Est-ce que vous restez sur cette analyse en vue de l'évolution de ce parti depuis?
Oui, alors vous savez, la notion de bloc,
c'était une tribune en Marianne,
c'est très 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 prétentieux, parce que tout le monde cite Gramsci, personne ne l'a lu, moi-même je ne lis que des exégètes, mais la notion de bloc, c'est pas le vote, quand je dis le bloc élitaire, c'est pas forcément les élites, sinon ils seraient pas majoritaires. Le bloc populaire, c'est pas le vote populaire, sinon je parlerais du vote populaire. C'est une alliance, si vous voulez, autour d'une idéologie, un projet qui se fait avec un noyau que je qualifie. Pour moi, la France insoumise, c'est, je suis désolé, alors il y a un vote populaire bien réel, et pas seulement d'origine de l'immigration extra-européenne qui vote France Insoumise. Ça existe, bien entendu, on a vu les chiffres à l'élection présidentielle, mais il y a un vote populaire, réel, diversifié, qui vote pour la France Insoumise. Mais la France Insoumise, si je devais les qualifier en termes de bloc, ça serait un bloc petit bourgeois. Ça serait un bloc petit bourgeois, c'est la petite bourgeoisie diplômée, parfois même surdiplômée des métropoles, souvent frustrée dans ses aspirations sociales, parce que c'est des diplômes qui souvent... c'est des gens.
Des bacs plus 5 en sociologie du genre.
Oui, c'est des gens qui ont fait des études assez proches.
Sans caricaturer, bien évidemment.
C'est des gens qui souvent ont fait des études assez proches des miennes, donc je suis bien placé pour en connaître l'utilité relative.
Et donc, le pote débouché.
Et donc, tout le monde ne peut pas être sondeur. Donc, mais sérieusement, c'est des gens effectivement qui sont des victimes en réalité de la massification scolaire et qui ne trouvent pas leur place dans la société telle qu'elle est et qui en viennent à, du coup, la contester. Mais la contester sur des bases idéologique en fait assez faible. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Ce qu'ils réclament, c'est avant tout de l'argent public, toujours plus d'argent public, toujours plus de places de profs, toujours plus de... Notamment, il y a beaucoup de doctorants, vous savez, parmi eux, donc ils veulent beaucoup plus de crédits pour les doctorants, pour des trucs qui ne servent strictement à rien, dans la plupart du cas. Et donc, c'est un bloc petit bourgeois qui aspire simplement à demander plus d'argent public et qui trouve comme allié... Parce que pour qu'il y ait un bloc, il faut qu'il y ait un noyau dur social et qu'il trouve des alliés, de la même manière que beaucoup de retraités sont les alliés de la Macronie dans les urnes, eh bien, ils trouvent comme alliés des populations, notamment la population d'origine immigrée extra-européenne. C'est ça, en fait, qui se produit. Donc, s'il y a un bloc, c'est un bloc, il y a un bloc populaire, parce que nous sommes effectivement le RN, le parti des classes populaires et moyennes qui travaillent plutôt dans le secteur privé. Tout ce qui relève de l'argent public, c'est les 30% qui constituent la gauche, et notamment pour la France Insoumise, c'est cette catégorie, enfin cette population que je viens de décrire, et puis pour le bloc élitaire, c'est encore autre chose. Alors évidemment, ça c'est très schématique, ça va faire hurler beaucoup d'auditeurs, mais je trouve que ça ne fonctionne pas si mal. Voyez.
D'ailleurs, si vous voulez hurler, chers auditeurs, mais avec courtoisie bien évidemment, vous pouvez nous écrire à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone, et je vous donne le numéro du standard dès que je le retrouve dans mes papiers. En tout cas, vous pouvez évidemment nous écrire et on répondra et on tâchera de répondre à toutes vos questions. Quand même, on voit donc ce bloc central, bien évidemment, on a vu ce macronisme, on a vu pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, d'ailleurs c'était assez amusant que le clivage gauche-droite, c'était... Macron ne l'a pas aboli, mais il s'était presque reconstitué au sein de son propre groupe, entre guillemets, puisqu'on a vu, dès qu'il y avait un débat sur la loi immigration, on a vu son groupe se déchirer plus ou moins. Néanmoins, ce bloc central qui a écrasé LPS et les Républicains a quand même permis au Rassemblement National d'émerger largement, a permis à la France Insoumise d'émerger largement, et en voyant le macronisme se retirer, et... Certes, le bloc central existe encore, on est d'accord, sauf que Édouard Philippe n'est pas les forces autour d'Édouard Philippe ne sont pas la première force politique de ce pays. Et en voyant justement, j'ai parlé très grossièrement, cette extrême droite et cette extrême gauche de plus en plus puissante, est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à un retour du clivage gauche-droite?
Alors,
Jérôme Sainte-Marie.
C'est très intéressant ce que vous dites là aussi, parce que on voit bien que ça a été le fantasme pendant des mois, des années peut-être, de reconstituer le clivage gauche-droite en polarisant. Entre le Rassemblement National, qui serait identifié donc à la droite, ce qui est déjà très contestable, et la France Insoumise. Sauf que ça ne fonctionne pas, parce qu'il faut être deux pour danser la valse, et la France Insoumise sort très affaiblie de ces élections municipales. Aucun sondage, ou quasiment, ne donne la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, au second tour. Alors les gens disent, oui, mais il commence faible, et il finit très fort, ce qui n'est pas toujours vrai. Hein. Le Figaro a fait une page extrêmement intéressante hier, là-dessus, où on en était dans les sondages à un an d'élection. La montée de Jean-Luc Mélenchon n'est pas toujours très forte. Elle était très forte la dernière fois. La fois précédente, sur un an, c'était 5% simplement.
Mais c'était pas du tout le même électorat, ceci dit.
Oui. Non mais voilà, donc les choses, il n'y a pas de loi, si vous voulez, sur le fait que Jean-Luc Mélenchon va doubler son score. C'est pas, il n'y a pas de loi sur un seul cas ou un cas et demi, en quelque sorte. Donc voilà. Moi, je ne trouve pas du tout que ça se reconstitue. Vous savez, il y a des choses importantes. Par exemple, le fait que la droite, LR... alors il y a des gens qui m'expliquent que la droite c'est pas LR, que LR c'est pas la droite, etc. On peut toujours trop expliquer ça, mais la LR, si j'ai bien compris, quand même a participé sous son propre nom ou parfois d'anciens LR à tous les gouvernements de Emmanuel Macron depuis 2017.
Il y a des questions de participation, son pacte de gouvernement, de pacte de
gouvernement. Ah oui, enfin bon, okay, non, mais vous savez, dans la vie politique, c'est assez simple. Est-ce qu'on est dans l'opposition, dans la majorité? Bon, c'est quand même le critère le plus simple, en fait. Hein. Et ces gens-là ont participé. Rachid Hadidi, par exemple, était au gouvernement il y a quelques mois et tout cela. Et donc, il y avait bien une alliance, parce que la sociologie est la même, en réalité, quasiment, entre les LR tels qu'ils sont aujourd'hui et la... Alors, il y a quelques différences culturelles, mais enfin assez faibles, la sociologie est très proche entre la Macronie et les LR, première chose. Après, vous avez eu aussi autre chose, c'est que dans les sondages, quand vous demandez aux gens est-ce que vous êtes satisfait ou mécontent, par exemple, de M. Lecornu comme Premier ministre, la moitié des sympathisants LR, mais aussi la moitié des sympathisants socialistes, sont plutôt satisfaits de M. Lecornu. Donc, c'est même pas le problème, si vous voulez, qu'il y aurait des méchants cadres LR qui seraient, et des gentils électeurs. C'est plus compliqué que ça. C'est moitié-moitié. Dernière chose, il y a eu quand même des événements majeurs ces derniers mois à l'Assemblée nationale, qui a retrouvé donc sa place dans la vie politique, et ça a été, par exemple, les votes de l'émotion de censure. Et à chaque fois, le gouvernement a été sauvé par le vote de ce qui restait du centre-gauche sous LR, et du centre-gauche de gauche sous le PS, pardon, et du centre-droit sous LR.
Oui, mais ça, c'est un peu l'instinct de survie. À chaque fois, Jérôme Sainte-Marie, juste un peu l'instinct de survie. Les députés LR ont refusé de voter la censure, alors même que le président de leur parti était d'accord. C'est qu'il y a... Il y a eu à un moment donné des instincts de survie individuels qui se sont exprimés, quoi.
Vous savez, il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Hein, donc, et donc, si vous voulez, moi, j'essaye d'en remettre aux actes, parce que sinon, on peut interpréter à l'infini ce qui est de droite, ce qui est de gauche, ceci, ce que... Non, il y a des choses très simples. Il y a des moments de vérité, notamment le vote de la motion de censure, et on voit bien qui et où. Ben là, c'était très clair.
Henri de Garpel.
Pour revenir sur les élections municipales, alors je fais un petit retour en arrière. Est-ce que le poids de l'immigration dans l'électorat français vous inquiète? Parce qu'on voit que, notamment à Saint-Denis ou à Roubaix, c'est l'électorat qui a profité justement à la France insoumise. Est-ce que ça vous inquiète à moyen, long terme, effectivement?
Non.
Sachant que la France insoumise arrive en fait à faire descendre les gens pour les faire voter assez facilement avec des relais qui sont vraiment assez puissants dans les banlieues.
Je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je sais que ces élections dont vous parlez ont été marquées par une abstention vraiment massive. que ce soit la Saint-Denis, Roubaix, tout cela. Et c'est vraiment, vous avez, il y a eu un bouquin qui s'appelle La démocratie de l'abstention, qui est sorti il y a quelques années, justement, qui est consacré au vote en Seine-Saint-Denis et qui montre qu'il y a une abstention massive. Alors je vais être là aussi dans un peu, je n'ai pas de la provocation, mais c'est de la sincérité. Moi, ça ne me, en soi, ça ne m'effraie pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a eu toutes sortes, la Seine-Saint-Denis d'ailleurs, a absorbé en quelque sorte des immigrations multiples. Ça a toujours fonctionné, vous savez, il y a un énorme turnover en quelque sorte dans la population de Seine-Saint-Denis depuis un siècle, puisque les nouvelles populations arrivant d'Europe, et pas seulement d'Europe, même avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, passaient par la Seine-Saint-Denis. Puis dès que vous arrivez à un certain niveau social, etc., souvent vous quittez la Seine-Saint-Denis. C'est comme ça que ça fonctionne, il y a un aspect sas en quelque sorte. Et donc la question, moi ce qui m'inquiète, c'est l'apparition de discours racialistes et de discours séparatistes. Je vais, parce qu'au fond, ce qui se passe en Seine-Saint-Denis, ça correspond à la banlieue rouge, et on sait que le Parti communiste a prospéré sur une immigration venue de différents pays d'Europe, essentiellement là-dessus. Sauf que ça a été prouvé. Le Parti communiste, malgré son discours très véhément, révolutionnaire, etc., à l'époque, ou à cause de cela d'ailleurs, a une fonction, en réalité, in fine, presque paradoxale, d'intégration des catégories populaires issues de l'immigration dans le système politique. Ça a fonctionné avec les Espagnols, avec plein de gens, etc.
Ça a fonctionné avec Benny Begayoko, c'est que eux,
non mais c'est que le problème, c'est que le Parti communiste essaie insister sur un clivage social, qui faisait peur d'ailleurs à la bourgeoisie parisienne, etc., mais qui est un clivage social et qui, en réalité, niait en très grande partie les différences ethniques et culturelles. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, mais ce n'est pas seulement le cas de la France insoumise. C'est l'importation en France d'une logique qui est avant tout une logique anglo-saxonne où on insiste sur les clivages culturels, sur les fruits empoisonnés du wokisme notamment, les clivages culturels, religieux, etc. Et on en fait le clivage dominant. Et là, on prépare un séparatisme parce que là, c'est, comment dirais-je, ça crée des clivages qui ne sont plus négociables, qui ne sont plus surmontables. Ça m'inquiète.
Bon, justement, le fait que Éric Zemmour se positionne en extrême inverse de Jean-Luc Mélenchon sur la question identitaire, c'est ça qui vous inquiète vraiment?
Je ne sais pas si c'est l'extrême inverse, hein, faudra demander s'ils n'ont pas un peu discuté pendant la campagne de... Vous leur demanderez s'ils n'ont pas un peu discuté pendant la campagne de 2022, s'ils n'étaient pas un peu... Ils n'ont pas trouvé quelque intérêt objectif dans leur opposition jouée, parfois surjouée. Donc, si vous voulez, vous avez quand même ce petit problème-là. Donc, effectivement, moi, je ne suis pas partisan, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas partisan des discours de guerre civile. La guerre civile est le pire des mots, chacun le connaît. Moi, je suis pour tous les discours de renforcement du pouvoir de l'État. Vous voyez, du pouvoir de l'État, de l'autorité de l'État. Ça, c'est important. Mais sinon, des discours qui sont à la fois, blessants et irréalistes ne produisent que du malheur à la société.
François Le Voyer.
Jérôme Sainte-Marie, vous évoquiez rapidement le sujet de l'abstention, effectivement, qui a été très forte pendant ces élections municipales. On la compare parfois à 2014, mais à 2020, pardon, mais ça n'est pas du tout le même scrutin. On était en plein Covid, c'était une abstention particulière. C'était 75% de participation dans les années 70. Aujourd'hui, c'est dramatiquement bas. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une paralysie d'une partie du corps social qui finalement ne s'intéresserait plus à la vie politique? Moi, j'entends beaucoup de Français qui sont dégoûtés, tout en ayant par exemple beaucoup d'affection pour une personnalité politique comme Jordan Bardella ou pour Marine Le Pen, mais qui se disent, mais en fait, je n'y crois plus, ça ne m'intéresse plus. Ces gens m'ont dégoûté et il y a eu un dernier espoir, c'est le sentiment que j'ai, un dernier sursaut avec les législatives 2024, il y avait une forte participation d'ailleurs, puis ensuite, le souffle est retombé et un sentiment de paralysie. Est-ce qu'il y a une baisse structurelle, vous êtes sondeur, une baisse structurelle de la participation? Est-ce que vous craignez cela pour les élections à venir?
Alors, pour les élections municipales, c'est vrai qu'on n'a pas... Alors, les élections précédentes, c'était marqué par le Covid, donc l'abstention extraordinaire ne signifie rien. Mais là, on n'a pas retrouvé les niveaux des élections municipales précédentes. Et ça, c'est très inquiétant parce que la République, en quelque sorte, elle se vit au village, elle se vit dans la commune. Et quand ce lien-là se défait, ça annonce sans doute beaucoup d'abstention. Soyons prudents. J'habite dans un village de 140 habitants où mon épouse a été élue conseillère municipale, je tiens à le souligner. Elle a été élue conseillère municipale sur une liste unique, paritaire désormais. et sans panachage possible. On a privé les gens du plaisir extrême, parfois peut-être un peu sombre,
de régner
son voisin avec qui on est en conflit.
Et pour son histoire de haie, de société de chasse.
Voilà. Et donc, on a privé les gens de pouvoir quand même faire le panachage, ouais, et pouvoir en fait tout simplement rayer les noms, etc. Ça a provoqué une surabstention dans les, je crois que c'est, enfin les, l'immense majorité des communes, ouais, qui sont des petites communes, où il y avait des listes uniques, où il n'y avait pas d'offres politiques. Pour vous répondre, François de Voyer, c'est, ce qui m'a frappé, c'est que quand même, à la présidentielle, là où les gens ont l'impression que leur vote compte encore, ça ne baisse pas. Aux européennes, ça augmente légèrement. Alors c'est très faible, hein, c'est à peu près la moitié du corps électoral, mais ça augmente, si on prend attention. Et comme vous l'avez fait remarquer, aux législatives, on a gagné 20 points par rapport aux législatives précédentes, pour la bonne et simple raison que les précédentes, c'était juste après la présidentielle, donc les gens pensaient que les jeux étaient faits, alors qu'inversement, là, il y avait un enjeu énorme en 2024, puisque l'alternance paraissait possible. Je pense que jusqu'en 2027, il y aura toujours ce réflexe de voter massivement pour la présidentielle, puisque les gens pensent que ça peut encore changer les choses. Si l'alternance n'a pas lieu en 2027, je crains qu'apparaisse un phénomène que j'ai appelé le survivalisme politique, c'est-à-dire que les gens se disent, au fond, c'est foutu. Notamment les gens qui votent pour l'alternance, les patriotes, les gens qui votent pour le Rassemblement National, bien entendu, etc. Eh bien, les gens se disent, bon, on n'y arrivera jamais. Et à ce moment-là, qui bascule dans cette forme de survivalisme politique. Alors, il y aura toujours des élections, peut-être que je serai toujours candidat d'ailleurs, etc. Mais c'est vrai que j'ai peur que le cœur n'y soit plus et qu'il y ait un repli des gens sur leur communauté au sens le plus étroit du terme, sur leur individu, leur famille, sur leur terrain, etc. On a vu des phénomènes comme la ruée des gens vers les clubs de tir, qui montrent aussi que, tant que, vous voyez, je finirai par là, là-dessus, c'est que tant que les gens croient dans le pouvoir de l'État, tout peut aller bien. Et on peut s'en sortir par la démocratie. Si les gens ne croient plus au pouvoir de l'État, là, il faut se faire vraiment des soucis.
Merci Jean-Marie. J'ai une dernière question, pardon, juste qui est un peu moins sociologique, mais vous appelez une alternance de vos voeux, bien évidemment, donc ne serait-ce que pour les gens s'intéressent à la politique, mais il y a quand même une question qui va demeurer, en admettant que ce soit Jordan Bardella, Marine Le Pen ou Édouard Philippe, quel que soit le président élu en 2027, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, par exemple? Est-ce que la France est encore gouvernable avec la constitution dont elle s'est dotée et vu les forces politiques en présence?
Oui, parce qu'il y aura des alliances à ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, admettons que Marine Le Pen soit élue présidente de la République en 2027. Si elle est élue, c'est qu'elle aura été élue. Et c'est, je explique. Ça signifiera qu'elle aura fait 50% et quelques voix au second tour de l'élection présidentielle et il y aura beaucoup de gens qui seront allés voter. Ces gens-là qui ont franchi ce pas extrême, eh bien, enfin extrêmement dur pour certains, pas extrême politiquement. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Eh bien, mais ce pas extrêmement décrié, voilà où je voulais en venir. Eh bien, ceux-là qui auront fait, notamment pour les quelques points qui nous manquent, eh bien, confirmeront très probablement leur vote et ça provoquera dans toutes les forces qui nous sont adverses, à mon avis, une crise profonde qui fera qu'on pourra avoir, dans cette hypothèse, une majorité à l'Assemblée nationale.
Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue, président de l'Institut Pauline Vox et en charge aussi de la formation au sein du Rassemblement National et par ailleurs candidat évidemment aux élections législatives pour le Rassemblement National et l'UDR. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Restez avec nous chers auditeurs. Dans quelques instants nous recevrons l'élu française au Parlement européen Laurence Trochu qui revient avec un nouveau livre dont nous allons parler et restez avec nous en attendant petit message de votre radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. We'll be right back.
Restons courtois. Marquez-nous.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Bienvenue dans cette dernière partie de l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Henault et je suis en plateau avec Valentin Gore et Vendry de Guerpel, journaliste chez Valeurs Actuelles. Et nous accueillons Laurence Trochu, députée française au Parlement européen. Vous siégez dans le groupe ECR. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Et c'est davantage la mère de famille que nous recevons ici, puisque vous publiez aux éditions Via Romana « Maman, j'ai vu Jésus ». Un ouvrage très fort, puisque en effet, la mère de famille que vous êtes a connu le cauchemar, j'ai envie de dire, que redoutent tous les parents du monde, puisqu'en 2017, il me semble, un de vos enfants, Stanislas, se fait faucher par une voiture et il demeure dans un état désespéré pendant plusieurs semaines. Et vous, pour vous, votre mari, vos autres enfants, donc vous vivez, on peut dire, les jours les plus longs de votre vie. Comment ça s'est passé précisément ?
Bah, en fait, voilà, cet accident, évidemment, par définition, on ne s'y attend pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le premier choc. Et puis, le deuxième, c'est quand le médecin vous dit que, en fait, votre fils est tout proche de la mort cérébrale. Glasgow 3 sur l'échelle de la conscience, donc effectivement plus proche de la mort que de la vie, qu'on vous annonce ensuite que le tronc cérébral est atteint, le tronc cérébral c'est ce qui commande toutes les fonctions vitales, et qu'il y a 90% de mortalité. Et là, bah, voilà, c'est, je pense qu'on perd tous ces repères, on ne sait plus quelle heure il est, où on habite, voilà, on est complètement déboussolé, en fait. Je pense que on est assommé. Et pourtant, la vie continue. Et ce livre, il l'a aussi pour montrer que, ben, en fait, la vie est plus forte, malgré tout. La vie de nos cinq autres enfants, comme je le dis dans le livre, la vie bien vivante de nos cinq autres enfants, pour lesquels il faut continuer à se lever le matin et à faire tourner la maison de manière parfois machinale, mais parce que finalement, la vie aussi est faite de tous ces petits pas qu'on pose les uns après les autres et qui parfois nécessitent beaucoup de courage, mais avec ce bel accompagnement aussi dont on a bénéficié à la fois sur le plan médical, familial, amical. Voilà, et c'est pour ça que je pense que la préface du chanoine Marc Boule est très juste quand il revient à l'image qu'il avait lui-même utilisée. Nous sommes le corps du Christ, et quand un des membres souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment expérimenté à travers l'accompagnement spirituel et parfois très humain, comme je le disais, puisque c'était aussi cette immense chaîne qui s'était mise en route pour que je n'ai plus de repas à préparer et qu'on puisse être complètement tourné vers l'accompagnement de notre fils, et puis le temps à prendre pour les autres enfants, évidemment, qui avaient bien besoin de nous aussi.
Au-delà de ça, c'est vrai qu'on entend des gens qui ont vécu des drames équivalents, quand ils disent on a senti qu'on a été porté. Alors, vous l'avez évoqué, il y a le soutien physique incarné, celui d'apporter des repas, celui peut-être de décharger de certaines conduites, etc.
Exactement.
Mais on se sent porté spirituellement, on se sent, on le sent, ça même. Enfin, pardon pour l'expression, mais en plein cœur de la nuit, quoi.
Oui, en plein cœur de la nuit, en fait, on trouve je dirais une ressource qu'on n'imaginait pas. On trouve des consolations, on trouve même, c'est vraiment paradoxal ce que je vais dire, mais on trouve même une joie profonde, celle de savoir qu'on est entre les mains du bon Dieu, qu'il s'occupe de tout, qu'il est capable de compter les grains de sable et les cheveux qu'on a sur la tête, et qu'il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Et ce pas qu'il nous invite à faire d'un abandon, en fait, parce que bien sûr, quand l'issue est aussi incertaine, il y a un Everest à grimper, et on se dit évidemment tout seul, on n'y arrivera pas.
Parce que finalement, c'est le réveil progressif de Stanislas s'étale sur quelques semaines. Donc, la certitude qu'il vivra, en tout cas, vous sortez du doute au bout de quelques semaines. Donc, c'est à la fois évidemment très court et extrêmement long, on suppose. Il y a une phrase qui revient souvent dans votre livre, c'est « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Alors, c'est frappant parce que vous l'utilisez plusieurs fois, cette expression, qui est évidemment tirée de la messe comme un acte de foi, alors que, enfin, pour tous les parents qui connaissent Necker, on voit très bien, on est presque, enfin, pardon pour l'expression, on est presque dans le couloir de la mort, enfin, on est dans le service où des parents assistent au départ de leurs enfants. C'est un peu le cri de Job sur son tas de fumier, en fait, c'est un acte de foi très fort. Comment il s'est imposé à vous? Parce que c'est vrai que pour les gens qui n'ont peut-être pas la foi, pour des gens qui ont peut-être vécu des peines équivalentes, c'est extrêmement fort comme témoignage de foi.
Oui, en fait, vous avez raison de dire que ça s'est imposé à moi. Parce que vous savez, je m'endormais le soir, j'avais la chance d'avoir un sommeil préservé. Ça m'avait coupé l'appétit, mais pas le sommeil. Et je me réveillais le matin, et avant même d'émerger, j'avais cette boule d'angoisse que n'importe qui peut connaître, et puis sans forcément savoir à quoi elle était due. Il y avait ces quelques secondes pendant, et puis après je me disais, ah oui, c'est Stan. Et un matin, parce qu'évidemment on se pose la question, mais pourquoi ça nous arrive? Pourquoi nous? Pourquoi? Enfin voilà. Et me vient cette phrase, mais vraiment qui s'impose à moi. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc évidemment, je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Je rumine évidemment dans la journée, et puis et puis quelques jours après, j'ai cette clarification. Effectivement, je me suis dit, si Stanislas s'en sort, ce sera vraiment la manifestation finalement de la toute puissance de Dieu, puisque à vue humaine, on nous dit votre fils va vivre un an, peut-être un an et demi. Dans un état végétatif, c'est-à-dire au mieux il sera capable de respirer tout seul, mais il ne retrouvera jamais la conscience.
Dans l'état possible, même l'état possible, qu'il n'imaginait même pas.
Et donc, s'il guérit, ce sera vraiment la preuve d'une intervention qui est surnaturelle. Voilà. Et donc, manifestant la gloire de Dieu. Et puis pour la deuxième partie, je trouvais ça un peu présomptueux quand même de penser que ça allait contribuer au salut du monde. Et j'ai compris après, mais bien après, notamment quand des personnes m'ont dit, ce qu'on a vécu avec vous quotidiennement, je suis retournée à l'église, j'ai demandé le baptême pour mon enfant, on va se marier à l'église,
des fruits totalement insoupçonnés
que je découvrais aussi bien parmi des amis proches que parmi des amis d'amis avec lesquels je n'avais pas une amitié forte, vous voyez.
Et ce qui est frappant dans la façon dont vous racontez ces semaines, c'est qu'à la fois, donc évidemment c'est très dur, il y a le secours de la foi, et il y a tout ce fil rouge autour du petit prince de Saint-Exupéry. D'ailleurs, vous le dites à plusieurs reprises, que Stan, il est comme perché sur l'astéroïde B612 du petit prince. Comment est-ce que le petit prince vous a accompagné en fait dans cette épreuve, dans la rédaction de ce livre? Comment le lien s'est fait, entre guillemets?
Parce que quand je suis rentrée dans la chambre de réanimation, j'ai vu mon fils complètement enturbané, avec quelques cheveux foufou qui sortaient de cela, des cheveux blonds, et l'image de ce petit prince qui fait toutes les couvertures du livre qu'on a tous en tête. Et puis, j'ai toujours considéré que Le Petit Prince n'était pas forcément un livre pour les enfants.
Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point.
Voilà, et je suis retournée en fait dans le livre, et j'ai cheminé finalement autour de ce thème très fort du livre d'apprivoiser ce qui nous est inconnu. Parce que j'avais devant moi l'enfant que j'avais mis au monde 11 ans avant, dont le corps nous échappait complètement, avec qui la relation était impossible, et je me dis, mais en fait je viens tous les jours le voir, mais pour faire quoi finalement? Pour dire quoi? Enfin, comment je vais recréer avec cet enfant une sorte de cordon ombilical? Et il a fallu que j'apprenne en fait à côtoyer la vie, mais sous une autre forme. Voilà. Et ça s'est prolongé évidemment ensuite avec la vie avec un enfant handicapé. Où on perd ses repères, parce qu'il y a eu de fait un avant et un après, quand le handicap est acquis. Finalement, il a fallu qu'on s'apprivoise l'un l'autre, et ça a été vrai à l'échelle de la fratrie, bien évidemment, et de la famille.
Je vais laisser évidemment mes collègues vous poser des questions, ils en ont sûrement. Et surtout, ce qui est frappant, c'est qu'on le voit, c'est qu'il y a en plus tout c'est pour ça que des faux espoirs, c'est-à-dire que vous assistez à un semblant de réveil, et puis finalement non, et puis quelque chose qui semble être un progrès, et puis une régression juste après. Ça a été, c'est éprouvant.
C'est les montagnes russes tous les jours. En fait, à chaque fois que le téléphone sonne, vous ne savez pas si c'est un livreur ou si c'est l'hôpital qui vient vous dire il est mort, ou au contraire il y a eu un progrès. Donc on vit le temps présent, en fait. Parce que, et c'est ça aussi qu'on a découvert dans cette épreuve, c'est que quand on ne peut pas faire de pronostic, quand l'avenir n'est que de l'inconnu, et ben en fait, on saisit chaque instant de vie de manière très intense, vis-à-vis évidemment de notre enfant, mais je redécouvrais aussi finalement nos autres enfants en prenant conscience de tous les moments parfois qu'on saccage par manque d'attention, par négligence, vous voyez, où on entend d'une oreille distraite ce que les autres ont à nous dire, etc. Dans une vie qui va très vite, où on pense à mille choses en même temps. Mmh. Et on a redécouvert, effectivement, le trésor qu'est le moment présent.
Ouais. Valentin Gore, si vous avez une question.
Oui, bah d'abord, je recommanderais vraiment la lecture de ce livre très chaudement, parce que c'est une leçon de sagesse et vraiment très émouvante. Et moi, ce qui m'a frappé d'emblée, c'est, nous en parlions juste avant, c'est la réaction de votre mari au moment même de l'accident, où il se dirige vers l'automobiliste pour lui dire « je te pardonne ». Là, on voit ce qu'est la force d'une famille catholique française, de ces valeurs-là qui vous ont été héritées.
Oui. En fait, c'est quelque chose d'absolument inexplicable. Moi, j'ai assisté à ça en regardant... en me disant, mais pourquoi il dit ça, enfin,
c'est un peu tôt.
Voilà, je m'étais même pas posé la question de savoir ce que j'allais dire à ce monsieur qui avait causé l'accident. Et mon mari de dire, voilà, a posteriori, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, ça a été un cri du cœur qui m'a dépassé. Enfin, c'était pas prémédité. Ça ne peut pas être prémédité, quelque chose comme ça.
Pendant les appels.
Oui, alors moi j'avais deux questions. La première, c'est comment est-ce que le pardon ne devient pas une faiblesse et de ce pardon, peut-on en tirer une leçon politique je pense notamment au livre La Collision de Paul Gagné, qui est journaliste à Quotidien, qui avait justifié un peu la mort de sa mère qui avait été renversée par un chauffard. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que la littérature en fait permet d'aider à revivre certaines émotions et à prendre du recul en fait sur les événements, parce que si vous l'avez écrit sur le moment ou après.
Alors moi je pense que dans le pardon il y a quelque chose de surhumain, évidemment, et en l'occurrence, vous savez, on n'a pas voulu rentrer nous dans la démarche, on va dire juridique autour de cet accident. On a confié ça à un avocat dont c'est le métier, précisément pour rester concentré l'aspect médical et l'accompagnement qu'il fallait mettre en place, et puis bien sûr sur la survie de notre propre famille. Et on a fait ce choix dès le début, en fait, de ne pas nous-mêmes porter le sujet sous l'aspect juridique. Mais ce pardon que mon mari a spontanément donné, je n'y vois qu'une inspiration de l'Esprit-Saint et pas un raisonnement humain. Ça me paraît très très clair. Et c'est pour ça que je ne parlerai pas de faiblesse, mais je parlerai au contraire d'une force qui ne nous appartient pas, vous voyez. Et votre deuxième question,
Sur la littérature.
Sur la littérature, oui. En fait, parce que je pense que quand on vit quelque chose comme ça de très fort, dans l'horreur finalement de la douleur que ça représente, on a une sensibilité à fleur de peau.
Bien sûr.
Et en fait, j'ai eu envie de retourner dans des livres que j'avais déjà aimé, mais pas avec la même acuité. Je pense à François Cheng, je pense à De l'âme, parce que quand on a sous les yeux un corps qui est inerte, une intelligence qu'on ne voit plus, et pourtant un souffle de vie, si ténu soit-il, immanquablement, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vivre ? Qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce qu'une personne ? Qu'est-ce que la dignité ? Voilà. Et les textes de François Cheng m'ont permis ce dialogue intérieur, dialogue avec moi-même, mais par la médiation de la littérature. Et une amie ensuite m'a offert un autre texte de François Cheng, Les cinq méditations sur la mort, qui évidemment était à point nommé. Et ce sont des, voilà, Saint-Ex et François Cheng, ce sont vraiment des auteurs qui m'ont accompagnée, je dirais, à côté de la parole divine, de la parole biblique, qui a rythmé aussi nos journées, puisqu'on était l'accident a eu lieu la veille du Mardi Gras, donc l'entrée en carême a été assez assez bouleversante.
Et jusqu'à, on arrive un peu aux bonnes nouvelles, jusqu'à ce que Stanislas se réveille. Alors, la scène est incroyable, son frère qui lui raconte son week-end de patrouille et qui lui dit, de toute façon, ça se trouve, t'écoutes rien de ce que je suis en train de dire, et il fait péniblement le signe de promesse du louveteau. Donc, on s'ensuit un réveil progressif, et puis surtout, évidemment, la raison du titre du livre, oui. « J'ai vu Jésus ».
Voilà.
Et là, c'est votre mari, je crois, qui a pris des notes au fur et à mesure que Stanislas racontait cela. Et en fait, il a vécu ce qu'on appelle une expérience. Alors, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, oui. Mais que lui appelle une expérience de vie imminente.
Exactement. C'est-à-dire que ce réveil a été très progressif parce qu'il était paralysé, il était aveugle, il était mutique. Donc, tout ne s'est pas fait de manière immédiate, un peu comme ce qu'on voit au cinéma, vous savez, jour-nuit. Voilà, ou nuit-jour.
Le réveil d'un coup, et puis. Ça n'a pas pris une ride, il n'y a rien qui a bougé.
Non, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et ce qui est effectivement extraordinaire, c'est que le jour de Pentecôte, donc Pentecôte 50 jours après Pâques, donc il y avait eu le carême, les 40 jours de carême avant, donc vous voyez, on est à peu près à 3 mois de distance de l'accident. Stanislas commençait à rentrer de temps en temps à la maison pour passer quelques heures avec nous, ce qui était d'ailleurs des heures à la fois magnifiques, mais en même temps cruelles, parce qu'il y avait forcément le départ à envisager pour retourner à l'hôpital. Et le jour de Pentecôte, il raconte pendant 40 minutes sans interruption, avec un débit de parole très lent, qu'il a vu Jésus. Et il était capable, en fait, d'articuler et de rapporter cela avec une fluidité qu'on ne lui avait jamais connue, mais qu'on ne lui a pas connue après non plus.
Ouais.
Vraiment sous l'inspiration de l'Esprit-Saint, un témoignage qu'on a reproduit à l'identique, hein, sans en modifier quoi que ce soit, pour rester vraiment fidèle à la description qu'il nous a faite, et du paradis, et de l'enfer. Description de l'enfer qui est beaucoup plus courte parce que la vision d'effroi qu'il a eue à ce moment-là explique en fait le texte très laconique qui entoure cette description.
Et je pense que tous les auditeurs se posent la question, mais comment va-t-il aujourd'hui ? Parce que l'accident date d'il y a plusieurs années maintenant.
Exactement, on est à 9 ans de l'accident. Il va bien. Au sens où il a passé 2 ans et demi à l'hôpital pour récupérer petit à petit. Il y a encore un challenge à surmonter, c'est le fait de courir. Il ne sait pas courir parce qu'il ne peut pas tenir en équilibre sur un pied ou sur l'autre. Il a des, je le dis à la fin du livre, des handicaps moteurs persistants, des troubles de la mémoire aussi qui sont bien handicapants pour l'organisation et la planification de sa vie. Il a passé son bac professionnel avec succès. Je pense qu'il a trouvé sa voie et c'est vrai que de toute façon il se dégage de lui une joie dans la fragilité, dans la faiblesse, qui permet aussi de dire que finalement une vie performante, hyper compétitive, où on cherche à être le plus beau et le plus fort, n'est pas forcément synonyme de bonheur, et que la joie profonde se trouve aussi finalement dans la fragilité.
J'ai une dernière question un peu plus politique. Alors, vous êtes vice-présidente d'un parti politique, vous êtes députée européenne. C'est compliqué quand on est un responsable politique, qu'on veut paraître sérieux, professionnel, crédible, de parler de religion, puisque quand on est un responsable politique et qu'on commence à dire que son fils a vécu une apparition divine, tout de suite, on sent le cercle de la raison qui commence à s'énerver un petit peu et à potentiellement arriver. On se rappelle à chaque débat bioéthique qu'il y avait, lorsqu'on montrait une opposition au mariage homosexuel ou à l'IVG ou à que sais-je, on se faisait souvent rétorquer, de toute façon ça compte pas, vous avez la foi entre guillemets. Est-ce que vous prenez pas un risque un petit peu politique ou est-ce qu'on dit finalement Laurence Trochu elle est atteinte de mysticisme et donc je sais pas si vous comprenez la question.
C'est
des sujets qui n'existent pas dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, etc.
Exactement.
On vit sa foi de manière assez sereine, mais en France on sent que c'est difficile d'assumer un parcours politique et une foi vivante en même temps.
Oui, vous avez tout à fait raison de préciser que c'est pas le cas dans d'autres pays, et ça je le constate au Parlement européen. Mes collègues, finalement, sont beaucoup plus libres dans leur prise de parole, dans les expressions qu'ils emploient, là où en France, on est tout de suite suspect d'enfreindre le principe de la laïcité.
Suspect de bigoterie ou même...
Exactement, et... bah, vous savez, les attaques, elles viennent essentiellement quand même de la gauche, hein, et surtout de l'extrême gauche. Mais bon, moi, je les ai jamais considérées comme des repères, parce que même si ce sont des courants politiques qui cherchent à nous dire ce qu'on a le droit de d'écrire, de dire, voire même de penser, je n'ai jamais considéré que j'étais tenue par leurs injonctions. Donc ma liberté, elle s'exprime aussi comme cela, parce que de toute façon, quand on est engagé en politique, on est dans la vraie vie, on est femme ou homme, et moi en l'occurrence épouse, mère de famille et catholique, et je suis fière de le dire.
Et la vie ne s'arrête pas pour autant. Merci beaucoup Laurence Rochu, députée française au Parlement européen et auteure de « Maman, j'ai vu Jésus » aux éditions Via Romana. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci Vendredi de Garpel et Valentin Gore d'avoir été avec moi pendant toute cette émission. Je vous retrouve jeudi prochain pour le nouveau Restons Courtois de Valeurs Actuelles. Et en attendant, retrouvez demain Marc Baudrier et l'équipe de Boulevard Voltaire pour le Restons Courtois du vendredi. Bonne soirée à tous.
Ça suffit maintenant.
Au revoir.